Salut à toutes et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce 15e épisode de Old Fashion. Aujourd'hui je suis accompagné de Val et on va sortir une fois n'est pas coutume du cadre du foot pour évoquer l'histoire d'un personnage haut en couleur, un homme qui on peut le dire a fait la pluie et le mauvais temps en Croatie.
Et oui, hello Alex, hello à tous, vous ne l'avez peut-être pas vu passer mais nous avons publié il y a quelques semaines un épisode de Sous le Capot avec comme invité Loïc Trégourès, spécialiste du football dans les pays de l'ex-Yougoslavie. L'occasion pour nous d'évoquer évidemment le rôle des supporters dans les conflits yougoslaves et pour moi aussi de découvrir à travers son livre des personnages, disons, atypiques pour être sympa. Et tu l'as mentionné, Alex, notamment en Croatie.
Ouais, alors pour recontextualiser, la Croatie proclame son indépendance en 1991 et sous l'égide de son nouveau président, un certain Franjo Tudman.
Exactement. Et en fait, Tudman, c'est un vrai passionné de football. En 91, notamment, la Croatie déclare son indépendance vis-à-vis de la Yougoslavie, mais ne sera pas encore officiellement reconnu par tous les membres de la communauté internationale. Et justement, Tudman va alors faire du sport et du football notamment, un élément essentiel dans la construction de l'identité croate. Alors, à travers son équipe nationale notamment, en organisant très rapidement dès 91 des matchs officiels face à des nations reconnues, notamment les États-Unis, qui, d'une façon ou d'une autre, à travers ce match, vont reconnaître l'existence de l'État croate. Et ensuite, à travers la Coupe du Monde 98, qui va être un véritable succès, puisque les Croates vont performer. Et sans oublier aussi les performances du Dinamo Zagreb, qui vont aussi promouvoir le football croate et sa nouvelle identité.
Ouais, dommage qu'ils aient croisé la route de Lilian Thuram. Alors j'imagine que tout ça, ça a renforcé le sentiment d'appartenance à un nouveau pays, mais ça va aussi permettre à Tudman de se construire une image positive, et on sait que ça, c'est un peu le secret des politiciens.
Ah bah, c'est évident que même si le football a contribué à la construction de l'identité croate, elle aura aussi beaucoup aidé son président politiquement. D'ailleurs, dès son arrivée au pouvoir, Tudman va faire le choix de rattacher la fédération de football à son propre parti politique. Alors pourquoi ? Pour trois raisons particulières. La première que je mentionnais tout à l'heure, il y a quelques instants, c'était de pouvoir toucher à un domaine d'exaltation identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le football va permettre de manifester des symboles pour rester notamment très proche de la population, mais aussi dans un second temps de permettre de réduire certaines libertés publiques pour mieux la contrôler. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que, on l'a vu apparaître un petit peu plus tard suite à certains procès, c'était aussi pour toucher des intérêts économiques personnels, puisqu'on a vu que plusieurs ministres ont par la suite été accusés de détournement de fonds et ou de toucher des primes sur certains transferts. Et enfin, la troisième et dernière raison, qui n'est pas la moins importante, c'est de pouvoir donner des rétributions à des gens de confiance, c'est-à-dire remercier des gens qui se sont un peu sali les mains pour lui, en leur offrant notamment des postes à responsabilité.
Ouais, en fait, cette chronique, tu aurais pu l'appeler « Comment devenir despote grâce au football ?» Et j'imagine que les clubs ont joué un rôle aussi. Qu'est-ce qu'il a fait du Dynamo, par exemple ?
Alors ouais, je ne l'ai pas précisé encore jusqu'ici, mais Tudman est évidemment un grand fan du Dynamo Moscou, qui est le plus grand club du pays, où il va régulièrement notamment s'afficher en tribune et surtout avoir un rôle existentiel dans l'organisation du club.
Et on pouvait penser que ta chronique, elle tournait autour de Tudman, mais ce n'est pas le cas. Et c'est justement à ce moment-là qu'intervient le personnage principal, Val.
Ouais, alors pour ça, il faut remonter encore un peu dans le temps, notamment au début des années 80, au moment où le principal groupe de supporters du Dynamo va être créé, donc les Bad Blue Boys. À cette époque-là, c'est Miroslav Blazevic qui est l'entraîneur du club et qui va devenir par la suite l'entraîneur de la Croatie, notamment à la Coupe du Monde 98, donc qui est assez connu au pays. Et Blazevic va justement se lier d'amitié avec un des membres des Bad Blue Boys, un certain Zdravko Mamic. Alors à la base, ce Zdravko Mamic, c'est un simple supporter qui s'amuse à vendre des coussins et des écharpes à l'effigie du club à l'entrée du stade Maximir de Zagreb. Mais à travers cette nouvelle amitié, il va petit à petit intégrer l'organigramme du club et rencontrer justement des personnes d'influence.
Jusqu'au moment où éclatent les guerres de Yougoslavie.
Ouais, alors on ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais si certains ont des infos, je suis preneur. Mais au début des années 80, Mamic est devenu proche des gens au pouvoir au club. Et donc, qui dit proche des gens au pouvoir au club, dit aussi proche des acteurs politiques importants. Et pendant les guerres, il va réussir à faire fortune grâce à ses contacts en vendant les parts qu'il a dans des entreprises de boissons et de compagnies forestières. Alors, c'est une revente qui est un petit peu suspecte sur le papier, mais qui va lui permettre notamment de devenir multimillionnaire. Mais aussi de gagner encore un peu plus d'influence auprès du HDZ, qui est donc le parti de Tudman, et aussi accéder à des nouveaux postes, puisqu'il va notamment devenir président de plusieurs clubs à travers le pays à la fin des années 90.
Mais j'imagine que pour faire grandir son influence dans les clubs, il avait déjà utilisé des techniques un peu limites, non ?
Je ne sais pas si c'est encore très clair jusqu'ici, mais là, je vais être très clair. Mamic, en fait, c'est un mec qui coche toutes les cases du mafieux pur et dur. Alors, au-delà de ses déclarations ultranationalistes, de ses signes nazis provocateurs, de son caractère bien trempé, de ses insultes envers les journalistes, Il y a tout un tas de petites anecdotes qui révèlent un petit peu le caractère du personnage. Par exemple, en 1992, au moment où son influence dans le club du Dynamo commence déjà à grandir, il est pressenti pour devenir directeur sportif du club. Mais finalement, le poste est attribué à un certain Josep Sojic. Et qu'est-ce que va faire Mamić à ce moment-là ? Bah, il va le tenter de le tabasser, littéralement. Voilà, c'est très, classique. Très simple, très efficace. Pareil, la même année, il agresse un membre de la Fédération croate. Alors, heureusement pour lui, il fait jouer évidemment son influence et ses relations haut placées, puisque la sanction qui avait été prononcée contre lui, donc de suspension à vie de toutes les activités en lien avec le football, la sanction est mystérieusement abandonnée. Je te passe évidemment aussi les épisodes où il a essayé d'étrangler le délégué d'un match, où il a frappé le joueur d'une autre équipe. Et en même temps, en dehors du club, dans la vie de tous les jours, il sait aussi très bien s'appuyer sur ses relations privilégiées. Par exemple, en 1995, il fonce dans un policier avec sa voiture qui était en train de verbaliser sa Jaguar. Alors évidemment, après plus de 10 ans d'enquête, il est acquitté, notamment parce que, comme par hasard, le policier avait oublié les circonstances de l'événement. Je peux aussi t'évoquer un petit dernier exemple. La fois où le directeur de la planification urbaine de Zagreb lui annonce que le gratte-ciel qu'il souhaite construire ne pourra pas voir le jour. Résultat, le pauvre bonhomme en question se retrouve avec la main cassée à coups de béquille par Mamić. Et évidemment, le gratte-ciel est sorti de terre quelques années plus tard.
Ouais, on est sur un poète, quoi. On est sur... Ouais. c'est incroyable, toutes ces anecdotes. Donc, on comprend bien qu'on a affaire à un mec complètement jeté, qui fait tout pour avoir ce qu'il veut, qui n'a aucune limite. Et j'imagine que l'ascension, elle ne s'arrête pas là quand tu as autant la dalle et que tu n'as pas de limite.
Bah non, évidemment. Après avoir justement intégré le conseil de surveillance du Dynamo au début des années 2000, il va finalement être nommé président du club en 2003. Et là, paradoxalement, c'est le début d'une nouvelle machine Afrique pour lui. Alors, pourquoi je dis paradoxalement ? Parce que le Dynamo, pour comprendre un petit peu le fonctionnement du club, ce n'est pas une entreprise privée comme une grande partie des grands clubs européens. C'est un club associatif qui est détenu notamment par les supporters et qui touche des subventions de l'argent public. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit aussi la porosité qu'il y a entre le monde footballistique et le monde politique en Croatie.
Bon, et comment Mamić il a fait là pour se remplir les poches ?
Justement, il va s'appuyer sur les richesses du club. En fait, malgré tous les coups bas politiques et les méthodes un petit peu violentes que met en place Mamić, c'est quand même quelqu'un qui connaît plutôt bien le monde du football. D'ailleurs, dans son ascension, il a joué implicitement des rôles d'agent, de conseiller sportif, etc. Et il sait pertinemment que le Dynamo est un club plein de richesses, notamment au niveau du centre de formation. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu à cette époque, Alex, mais le centre du Dynamo Zagreb fait partie des tout meilleurs centres de formation d'Europe, notamment d'après le rapport du CIUS, qui est un petit peu la référence dans ce domaine-là. Et le centre est aussi très performant, enfin l'équipe est aussi très performante dans le secteur de la post-formation.
Ouais, c'est un peu les dernières années de gloire du Dynamo, je crois, et je te listerai citer les jeunes qui sont sortis du centre, mais j'imagine que du coup, il s'est très logiquement appuyé dessus.
Bah ouais, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il va faire en sorte que n'importe quel joueur, qu'il soit croate ou non, qui signe à cette époque un contrat professionnel au Dynamo Zagreb, signe aussi un contrat civil avec la société de management détenue par le frère de Mamić, donc Zoran Mamić. Ces contrats qui sont signés sur des longues durées, donc globalement, en gros, l'entièreté de la carrière pro d'un joueur, vont lui permettre de toucher des pourcentages exorbitants sur les salaires et sur les droits d'image des joueurs. Alors, ça va concerner à peu près tous les grands joueurs croates, comme notamment Kovacic, Lovren, Korluka et évidemment Modric, grâce à qui Mamić va toucher quasiment 1 million d'euros par an depuis qu'il a signé au Dynamo, donc depuis quasiment une quinzaine d'années, quoi.
Ouais, alors ça peut paraître léger, mais bon, faut se rappeler qu'on est 20 ans en arrière et qu'un million par an, c'est pas l'équivalent de 1 million maintenant. Donc, on a une sorte de double casquette. Il est à la fois manager et à la fois président.
Ouais, bon après, même 1 million aujourd'hui, moi je les prends, hein, on va pas se mentir, Alex.
Mais oui, dans les faits,
dans les faits, oui, t'as raison, c'est encore pire que ça, puisque donc lui est président du club. Son frère Zoran, qui possède donc la société de management, il est aussi directeur sportif et entraîneur du club. Et au milieu de tout ça, Mamić a aussi profité de son influence pour dégager toutes les anciennes légendes du club et les remplacer par une espèce d'armée d'avocats et de financiers qui ont bien compris que s'ils voulaient garder un semblant d'influence au sein du club et auprès de Mamić, il valait mieux qu'il continue à s'enrichir et donc que Mamić soit réélu. Donc ils font en sorte évidemment que Mamić soit réélu à la tête du club à chaque nouvelle élection.
Ah, je sais pas pourquoi, mais ça sent la fin de l'histoire dramatique, ton histoire. Et les résultats au milieu de tout ça, ça donne quoi à ce moment-là ?
Paradoxalement, au début du règne de Mamić, ils sont plutôt bons, notamment grâce à cette fameuse génération dorée dont j'ai cité les noms il y a quelques secondes, évidemment grâce au centre de formation aussi. Mais justement, il va enchaîner les titres et les bonnes performances européennes. Mais évidemment, les supporters ne sont pas dupes. Ils vont commencer à voir les magouilles venir et s'opposer assez frontalement à lui. Le problème, c'est évidemment que le club est complètement verrouillé, que ce soit de l'intérieur avec l'armée d'avocats dont je parlais, mais aussi de l'extérieur, compte tenu de son influence politique majeure. Par exemple, Mamić a aussi été un des principaux soutien financier de la campagne de l'ancienne présidente croate qu'on avait vu notamment pendant la Coupe du Monde 2018 avec Macron.
Ouais, donc en fait, personne n'a la capacité de s'opposer à lui, quoi.
Non, pas grand monde veut s'opposer à lui. Par contre, en revanche, au bout d'un moment, les choses vont commencer à tourner un petit peu au vinaigre. Les autorités financières vont commencer à remarquer quelques petites irrégularités sur certains gros transferts, notamment celui de Modric à Tottenham ou de Lovren à Lyon, pour lesquels il est accusé de fraude et de détournement de fonds sur ces transferts. En parallèle, il y a aussi plusieurs scandales de matchs truqués qui vont jaillir, comme la finale de la Coupe de Croatie en 2009, et aussi et surtout un match de Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce match, Alex. Perdu 7-1 bien, donc, ouais. Par le Dynamo Zagreb, et avant lequel il avait déclaré que son équipe était déjà éliminée et que ses joueurs pensaient déjà aux meufs qu'ils allaient pouvoir draguer sur les plages en vacances. Donc, un peu classe. Mais en fait, le vrai truc qui va déclencher le déclin de Mamić, c'est surtout le moment où on apprend qu'il aurait détourné aussi des fonds publics. Et c'est là que son image va réellement se détériorer, notamment à travers son ancienne compagnie forestière, grâce à laquelle il aurait détourné près de 14 millions de kounas, soit environ 2 millions d'euros.
Et à ce sujet, il n'y a pas eu d'histoire du coup concernant les joueurs ?
Bah si, justement, Lovren et Modric avaient été appelés pour témoigner dans le procès sur les transferts illégaux et les contrats civils sur les droits. Et notamment après la première audience, les deux joueurs avaient été accusés de faux témoignages sous serment, et ce juste avant la Coupe du Monde. Donc ça avait provoqué un énorme tollé médiatique. Ils avaient été accusés de soutenir et de défendre l'un des plus grands mafieux du pays. Alors certains diront que ces témoignages avaient été faits pour se protéger compte tenu de l'influence et de la dangerosité de Mamić. D'autres diront que c'était plutôt pour essayer justement de défendre ce mafieux en puissance.
Ouais, après, on connaît un peu le monde du foot et le courage des joueurs quand il s'agit de témoigner. Comment ça finit cette histoire au final, Val?
Bah, il a fini par être reconnu coupable de détournement de près de 16 millions d'euros sur les transferts des joueurs et en plus de ça, d'évasion fiscale à hauteur de 1,6 million d'euros. Et donc pour ça, il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Mais évidemment, un sacré flair, il avait senti le coup venir et s'était exilé en Bosnie, pays où il n'y a évidemment pas de traité d'extradition avec la Croatie. Mais néanmoins, ce jugement a été perçu plutôt comme une vraie victoire de la part des supporters du Dynamo, dont le club, tu l'as évoqué tout à l'heure, a très fortement régressé depuis la fin du mandat de Mamić et qui est du coup aujourd'hui en quête d'un second souffle qui pourrait relancer le club en championnat et aussi en Europe.
Ouais, ça paraît compliqué, mais en tout cas, merci beaucoup Val. Moi, je ne connaissais pas du tout ce personnage et c'était très intéressant. Si vous avez envie de manger encore plus de dirigeants loufoques ou de dirigeants qui travaillent bien, on vous encourage à aller écouter l'épisode du Comex qui est sorti cette semaine. On vous prépare également pour la fin de semaine un petit poteau carré qui devrait vous plaire sur une équipe encore qualifiée en Ligue des Champions. D'ici là, on vous souhaite que tout se passe le mieux pour vous et on a hâte de vous retrouver sur 11e Art.